Merci Pierre pour cette introduction et cette occasion d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à prier. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu nous as parlé. Tu t'es révélé à nous dans ta parole et en Jésus-Christ. Aujourd'hui, par ton esprit, ouvre les yeux de notre cœur pour te voir mieux, pour voir ton projet pour l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, amen. J'ai affiché un titre pour cette prédication, pour un développement durable de l'Église. Alors, le développement durable est un peu à la mode, mais rassurez-vous, ce ne sera pas une prédication politique, puisque nous parlons du développement durable de l'Église. Nous savons que l'Église de Jésus-Christ durera jusque dans l'éternité, puisque Jésus-Christ lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais nous voulons, dans notre travail, chacun contribuer à ce développement durable de l'Église. Et c'est pour cette raison, certainement, que ces jeunes se sont inscrits à l'Institut cette année. Et mon désir le plus grand, c'est que leur enthousiasme perdure. Je les vois quelquefois en septembre, comme aujourd'hui. Et puis, je reviens faire des cours au mois de février-mars. Et c'est là où il y a une bonne grippe qui tourne dans l'IBG, morale et quelquefois dans les chaussettes, la lune de miel des relations inter-étudiants, entre étudiants et staff, la lune de miel est en train de disparaître, enfin a disparu disons. Et il faut autre chose à ce moment-là que l'enthousiasme charnel, on va dire. Il faut la dépendance à Dieu. Et j'ai une thèse qui vient d'un passage biblique pour cette prédication. C'est que pour un développement durable de l'Église, ce qui est nécessaire, ce n'est pas des super programmes dans l'Église, ce n'est pas une super musique, ce n'est pas un super programme de jeunesse, ce n'est pas des diplômés de l'IBG ou d'ailleurs. Mais il nous faut des bâtisseurs spirituels pour que l'Église perdure. À quoi ressemblent ces bâtisseurs spirituels? L'apôtre Paul, dans le texte que nous allons lire, nous donne quatre caractéristiques des bâtisseurs spirituels. D'abord, ils se méfient de leur nature humaine. Ils ne sont pas charnels. Deuxièmement, ils sont fondés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et pas sur un homme. Troisièmement, ils visent un travail à long terme. Ils construisent en vue de l'éternité. Et pour finir, ils ont capté, intégré, compris l'importance capitale, suprême, du projet de Dieu en Jésus-Christ, qui est son Église. Alors, prenons ce premier point. Ils se méfient de leur nature humaine. Et je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce que vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas comme d'une manière toute humaine? L'apôtre Paul nous présente trois types de personnes dans ces premiers versets de notre texte. Il nous parle de la personne qui n'est pas régénérée, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu et qui ne comprend rien aux choses de Dieu. Ensuite, il nous parle de la personne spirituelle, remplie de l'Esprit de Dieu, dirigée par l'Esprit de Dieu et qui juge de tout, qui discerne ce que Dieu veut. Et puis, il créera une troisième catégorie que certainement il aime pas trop, qu'on appelle parfois le chrétien charnel ou le chrétien immature aussi dans les paroles de l'apôtre Paul. On va passer quelques minutes sur chacun de ces types de personnes. D'abord, la personne dite naturelle par l'apôtre Paul, c'est-à-dire qui a sa nature humaine, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas régénéré. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous comprenons les choses de Dieu. Quand on se convertit, c'est comme si l'Esprit Saint nous donnait une nouvelle paire de lunettes. On voit des choses différemment. Mais sans cette paire de lunettes, eh bien, on voit les choses de manière naturelle. Ainsi, vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui ne vous comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils vont chaque dimanche dans une église alors qu'ils pourraient aller à la pêche ou faire la grasse matinée ou faire autre chose? Ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un mettrait à part toute une année de leur vie pour étudier la parole de Dieu plutôt que faire le tour du monde, comme disait, je crois, David tout à l'heure? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas les bonnes lunettes. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de la personne spirituelle qui a reçu à sa conversion l'Esprit de Dieu, qui marche avec l'Esprit, qui est rempli de l'Esprit. Cette personne a reçu, selon le texte, la pensée de Christ, les lunettes de Jésus-Christ. Ainsi, il voit Dieu comme Dieu veut qu'on le voie. Ils se voient comme Dieu les voit. Ils voient les autres comme Dieu les voit. Ils voient les choses du monde, les choses matérielles, avec la perspective de l'éternité, comme Dieu voudrait que nous les voyions. Alors je vous invite à essayer d'imaginer l'ambiance dans l'église de Corinthe, il y a 2000 ans à peu près, quand ils ont reçu cette lettre. Alors, vous êtes réunis un dimanche matin dans cette église à Corinthe et un des anciens rentre tout excité avec un parchemin dans les mains. On a reçu une lettre de l'apôtre Paul, le fondateur de l'église. Tout le monde est excité. Lisez-la, lisez-la. Alors, sans plus tarder, tout le monde s'assoit et cet ancien vénérable se lève pour lire. Et on arrive à ce texte. Et il parle de la personne naturelle inconvertie. Tout le monde dit oui, effectivement, ils ne comprennent rien. Et puis, il arrive à l'homme spirituel. Ah oui, on a reçu la pensée de Christ, on juge de tout. Et puis, imaginez l'ambiance quand il commence le chapitre 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants. En Christ, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, vous ne pouvez toujours pas. Et l'ambiance fait... Imaginez le choc. On peut se dire, mais... comment l'apôtre Paul le savait-il qu'ils étaient bébés chrétiens? Comment le savait-il qu'ils étaient pas spirituels? Est-ce qu'il leur manquait de la connaissance? Non, ce n'est pas ça. Dans les premiers chapitres, il les félicite pour leur connaissance. Est-ce qu'il leur manquait des dons spirituels? Oh non, pas du tout. Est-ce qu'il leur manquait de l'enthousiasme? Non, dans le chapitre 14, il doit leur dire, allez-y doucement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est leur relation les uns avec les autres. Je crois que je suis en retard. Comment le sait-il? Puisqu'il y a parmi eux des divisions, des jalousies, des disputes. Vous voyez, l'apôtre Paul a deux listes de comportements. Il nous la donne dans Galates au chapitre 5. Les œuvres qui viennent de la chair et les œuvres qui viennent de l'esprit. Alors il observe l'église de Corinthe, il voit jalousie, dispute, division, et puis il regarde la liste des fruits de l'esprit. Il y en a 9, et il ne trouve pas ni jalousie, ni dispute, ni division. Donc si ça ne vient pas de l'esprit, il regarde dans l'autre liste, ah oui, c'est une œuvre de la chair. Là où il y a jalousie, dispute, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. C'est une œuvre de la chair. Alors, chers étudiants, quand je viendrai vous voir au mois de février-mars, pour voir si vous êtes spirituels, je ne regarderai pas la qualité de vos questions en cours, je ne regarderai pas les résultats à votre examen, même si c'est important, je regarderai à vos relations, les uns avec les autres, parce que c'est dans ces relations que nous manifestons notre relation à Dieu. Que ça devient tangible. Et c'est là où quelquefois le bât blesse, n'est-ce pas? Pendant une douzaine d'années, comme l'a dit Pierre, j'ai fait partie d'un comité dans notre famille d'église. J'avais un rôle un peu itinérant et quelquefois j'étais amené à avoir un ministère de médiation dans des églises en crise. Et j'ai pu observer quelquefois dans des églises des disputes, des jalousies et des divisions entre des personnes dites mûres, parfois des anciens, des diacres et leurs familles. L'apôtre Paul savait que la spiritualité se manifeste dans nos relations les uns avec les autres. Alors quelqu'un pourrait dire, est-ce que c'est grave d'être un bébé chrétien? Est-ce qu'on pourrait pas juste avoir notre ticket pour le ciel et puis pendant cette vie ne pas s'engager dans la sanctification? Alors moi je réponds, ce n'est pas grave d'être un bébé chrétien. Ce qui est grave, c'est de rester un bébé chrétien. Imaginez des parents. Nous sommes grands-parents, on a 5 petits-enfants. Notre plus grande joie, c'est de les voir grandir, se développer. Ah, le premier sourire, vite, on sort les appareils photo. Ah, le premier pas, magnifique, on va filmer. C'est un grand moment de joie. Mais imaginez les parents dont l'enfant ne fait pas le premier sourire quand il faut et qui ne prend pas le premier pas. Vite, ils vont chez le médecin. Docteur, il y a un problème. Mon enfant ne tient pas assis. Quelle souffrance, quel souci. Et il faut être en souci quand un chrétien ne grandit pas. Si vous êtes responsable d'église, ça doit vous poser souci. L'apôtre Paul est en souci pour l'église de Corinthe. Il reste bébé alors qu'il devrait être maître dans la foi. Quand vous vous engagez pour venir à un séminaire à l'IBG, j'ai remarqué qu'on peut avoir le pack A, B ou C. Alors A, je crois, c'est avec séminaire, nourriture et logement. B, c'est séminaire et nourriture. C, c'est juste séminaire. Alors quelques-uns se disent, ben, dans la vie chrétienne, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un A, B, C? Est-ce que je ne pourrais pas juste prendre mon ticket pour le ciel et puis le reste, bon, c'est pas si important? Eh bien non, il ne peut pas y avoir de foi sans œuvre, de vie chrétienne sans vie manifestée par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul est en souci pour cette église. Deuxième critère des bâtisseurs spirituels, c'est qu'ils sont fondés sur Christ et Christ seul, et pas sur un homme. Je vous invite maintenant à lire les versets 4 à 11 du chapitre 3. Chapitre 3, versets 4 à 11. Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animé par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Un autre signe d'immaturité dans cette Église, c'était l'attachement trop fort aux serviteurs de Dieu. Paraît-il que les bébés chrétiens sont un peu comme des bébés canards, vous savez, qui vont suivre le premier adulte qui les enseigne, qui leur donne peut-être à manger, et après c'est la fidélité à vie, sans trop se poser de questions. Ainsi, nous avons eu des gens qui nous ont marqué l'histoire de l'Église. Il y a 150 ans, il y a eu John Darby. Après, il y a eu John Alexander, cher à cette maison. Après, il y a eu John MacArthur. Aujourd'hui, la mode semble être plutôt John Piper. Après, il y aura un autre John. Alors, merci pour ces hommes, je ne les méprise pas. Ils ont tous contribué à la construction durable de l'Église. Mais trop s'y attacher n'est pas un signe de maturité. Et trop s'y attacher favorise les divisions dans l'Église. Nous avons vécu pendant 21 ans à Grenoble, et pour ceux qui suivent le foot, ils se rappelleront peut-être qu'il y a une dizaine d'années, la ville de Grenoble s'est dotée d'une équipe de première division de football. Si vous ne vous rappelez pas, c'est parce que ça n'a duré qu'une saison. Et pendant cette saison, mon fils m'a amené à un match de football professionnel, premier match de football professionnel que j'ai observé de ma vie, d'ailleurs le seul match de football. Alors comme je ne suis pas forcément passionné de football, j'ai fait en même temps des observations sociologiques au sujet du supporter lambda de football. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que l'arbitre sifflait une faute contre l'équipe de Monaco, puisque c'était Monaco ce jour-là, tout le stade grenoblois applaudissait l'arbitre. Et quand l'arbitre sifflait une faute contre un joueur grenoblois, tout le stade grenoblois sifflait l'arbitre. Alors j'ai vu une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois. Je me suis dit, ce qui semble mobiliser les supporters, c'est pas l'amour de la vérité et de la justice. C'est plutôt un comportement clanique qu'on observe ici. Alors c'est juste normal dans un stade de foot. Et j'allais dire, c'est juste pas normal dans une église, mais ce matin j'ai entendu des choses qu'on entend dans des stades de foot. Donc il faut que je révise ma prédication. Parce qu'il n'est pas normal, c'est un esprit clanique. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, c'est une œuvre de la chair, selon l'apôtre Paul. Non, pour un développement durable de l'Église, il nous faut être fondés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il faut qu'il soit le centre de notre dévotion, le centre de nos prédications, le centre de nos conversations, le centre de notre Église. Si nous sommes tous attachés à Christ, il n'y aura pas de division. Nous avons des amis qui, il y a quelques années, ont acheté une maison. Le crépi venait d'être refait. Elle était très belle, cette maison. Mais 6 mois plus tard, il y a des grandes fissures qui se sont apparues dans la maison. ils l'ont fait analyser et en réalité, le fondement était insuffisant pour la maison. Et le vendeur avait simplement déguisé le problème avec le crépi. On suivit beaucoup d'années très difficiles de procès, de coûts, de travaux, etc. Si la fondation de l'Église n'est pas Jésus-Christ, les fissures viendront certainement. Une Église pourrait tenir un temps basé sur autre chose. Vous savez, dans chaque groupe, on observe ça en sociologie, il y a des forces qui tiennent un groupe ensemble. Quand on veut garder les gens dans le groupe, on va leur envoyer des petits signaux positifs quand ils font des choses pour se conformer au groupe. Ah, c'est une super poulet rôti que tu as amené à la gare aujourd'hui. C'est un de ces petits signaux. Et on le fait de manière sincère. Mais ces petites remarques gardent le groupe ensemble. Et en fait, ce qui pourrait nous tenir ensemble à la fin, c'est un peu l'habitude d'être ensemble. Peut-être un amour un peu charnel les uns pour les autres, peut-être une pression sociale, peut-être un réseau familial. Mais si ce n'est pas Christ, les fissures viendront. Troisième qualité des bâtisseurs d'église, ils visent le long terme, ils construisent en vue de l'éternité. Nous allons lire les versets 12 à 15, versets 12 à 15 du chapitre 3, 1 Corinthiens. L'apôtre Paul poursuit sa métaphore filée sur la construction. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. L'apôtre Paul nous parle de deux types de matériel de construction, des matériaux durables, nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et puis une deuxième catégorie, ce sont des matériaux qui brûlent, n'est-ce pas? Le bois, le foin, la paille. Nos amis catholiques ont cru voir dans ce texte un soutien pour la doctrine du purgatoire. Comme quoi ce serait un temps après la mort où le chrétien, qui n'est quand même pas assez pur pour rentrer au ciel, passerait encore par une longue période, plus ou moins longue, d'épreuves où on souffre pour se préparer pour le ciel. Alors nous ne voyons pas ça dans ce texte. D'abord, ce ne sont pas des personnes qui passent par le feu, mais les œuvres qu'elles ont faites. Ensuite, il n'est pas question d'une longue période, mais d'un jour de jugement où ces choses sont révélées. Moi, je l'imagine un petit peu comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais quand vous faites un voyage et que vous montez en avion, votre valise passe dans une boîte comme ça. Et d'un seul coup d'œil, la personne qui est derrière cette boîte voit les matériaux qui composent les éléments qui sont dans votre valise. D'un seul coup d'œil. Je pense qu'on va arriver au ciel avec nos valises, remplies avec ce que nous aurons dit pendant cette vie, ce que nous aurons fait pendant cette vie, ce que nous aurons pensé pendant cette vie. Et d'un seul regard, le Seigneur, avec ses yeux perçants, saura ce qui est digne de l'éternité et ce qui ne l'est pas. Nous avons rencontré des amis dans un camp famille il y a quelques années. L'été, devant ça, ils avaient vécu un drame. Vous savez, c'est une famille, deux enfants, une petite maison. Ils faisaient des frites un jour dans le garage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais le garage a pris feu et la maison a commencé à se remplir très très rapidement de fumée toxique. Ils ont eu juste le temps de se saisir des enfants et de sortir dans la rue. Et là, sur le trottoir, ils ont regardé leur maison partir complètement dans la fumée. Leur voiture, leur maison, leurs meubles, leurs papiers importants, leurs photos de famille, leurs habits. Ils se sont trouvés avec la chemise qu'ils avaient sur le dos et leurs enfants, grâce à Dieu. Je ne veux pas arriver au ciel comme ça. Et vous non plus. Comment savoir si nos œuvres aujourd'hui correspondent aux critères de Dieu, si nous construisons avec des matériaux nobles? Est-ce que nos œuvres sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que nos œuvres donnent gloire à Jésus-Christ? Est-ce que c'est caractérisé par la foi, l'espérance et l'amour? Parce qu'il n'y a que ces trois choses qui demeurent, nous dira l'apôtre Paul dans le chapitre qui suit. Je le souhaite pour vous. Moi, je pense qu'on va arriver avec ces œuvres. Beaucoup de mes œuvres vont disparaître certainement. Même des choses que j'ai faites au sein de l'Église. Mais mon espérance, c'est que j'ai aussi des choses qui vont nous accompagner dans l'éternité. Et que je pourrai dire au Seigneur, merci, dans ta grâce, tu m'as appelé, tu t'es révélé à moi, tu m'as donné ton Esprit Saint, tu m'as équipé avec des dons, tu as préparé d'avance des œuvres pour moi. Et là, je les dépose à tes pieds, parce que toute la gloire te revienne à toi. Dernière caractéristique des bâtisseurs d'églises spirituelles, dans les versets 16 et 17, ils ont compris la valeur suprême de l'Église de Jésus-Christ. Je lis. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'apôtre Paul, toujours inquiet pour cette Église, ne savez-vous pas? Vous avez oublié quelque chose de fondamental. Vous êtes le temple de Dieu. Deux remarques au sujet du temple. Quelquefois, quand l'apôtre Paul parle du chrétien comme temple de Dieu, il parle aux individus en disant « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». C'est ce qu'il dira au chapitre 6. Et l'application qu'il en fera, c'est « Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit ». Mais ici, dans ce texte, il parle de manière collective. Il s'adresse à tout le peuple de Dieu. Vous, ensemble, vous constituez le temple de Dieu, le lieu où Dieu a décidé de résider, le lieu que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Vous, ensemble, et dans vos relations, vous êtes le temple du Saint-Esprit, un temple saint. Deuxième remarque, dans le grec, il y a deux mots pour temple, que nous n'avons pas en français. Un mot décrit le temple avec tout ce qui constituait le temple, les parvis, etc. Et un deuxième mot qui décrivait juste le lieu très saint du temple, où la présence de Dieu demeurait. C'est ce mot-là qu'il emploie ici dans ce texte. Vous êtes le lieu saint, la présence de Dieu, l'importance de l'Église. Quel regard avez-vous sur l'Église de Jésus-Christ? Vous savez que notre regard peut et doit évoluer. Nous avons à la maison un buste, une petite sculpture que mon épouse a héritée de sa grand-mère. C'est sur un meuble du salon depuis toujours. Nos enfants ont grandi avec. Quand nos enfants étaient adolescents, ils trouvaient qu'il n'y avait rien de bien joli dans notre maison. Il faut avoir la peau un peu épaisse quand on est parents d'ado. Ils nous disaient, nous, quand on aura notre maison, nos meubles seront tout blancs, tout modernes, tout pas comme les vôtres. Tout ça, quand vous serez partis, ça part directement à l'incinération. Y compris le buste là-bas. Sympa. Alors, il y a quelques années, nous avons déménagé à Aix-en-Provence et en préparant ce buste, je le mets dans un carton et je crois voir quelque chose de gravé en bas du buste. Alors, je prends une loupe et je vois 5 lettres gravées. P-U-G-G-I. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On va voir notre ami Google. Et je découvre que ce Pucci, c'était un sculpteur italien des années 1840, à peu près, et qu'il était assez connu. Alors, je commence à me frotter les mains. Je vais sur des salles de vente virtuelles et je vois quelques œuvres très similaires à ce que nous avons et je vois que ça se vend pour 4 000, 5 000, 7 000 euros. Alors, je téléphone à mes filles. Quand on aura dévissé notre billard, vous voudrez peut-être pas jeter le buste. Et je leur explique. Donc, elles reviennent à la maison, elles regardent, elles disent, c'est vrai que ça a un certain charme. Je leur ai donné des nouvelles lunettes. Et l'Église de Jésus-Christ, on peut regarder de manière charnelle ou on peut regarder avec les yeux de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ voit son Église? Je vais vous dire comment. Comme un jeune homme qui est debout devant une grande assemblée, comme ça, il est bien habillé ce jour-là. Il y a une belle musique qui démarre et les portes du fond de l'église s'ouvrent. Et là vient une jeune femme habillée tout en blanc, étincelante. Et son cœur fait comme ça. Et ses yeux brillent. C'est comme ça que Jésus-Christ voit son église. Et il a donné sa vie pour la présenter sans tache ni ride à son Père. Et c'est comme ça que nous devons regarder l'Église, avec un regard eschatologique, avec le devenir de l'Église, ce vers quoi l'Église va. Et puis nous nous rangeons du côté de Dieu et du côté de Jésus-Christ dans ce qu'ils font pour l'Église. Et je ferai mal mon travail si je ne finissais pas avec l'avertissement avec lequel finit l'apôtre Paul, ici. Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Un chrétien véritable aime l'Église de Jésus-Christ parce que c'est le corps de Jésus-Christ, parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais qu'il y a parfois des choses moches dans les églises. Je les ai vues et vécues, j'y ai participé. Mais je m'efforce d'avoir le regard de Jésus-Christ sur l'Église. Et je le prie pour vous. Prions. Notre Père, nous confessons d'abord notre immaturité spirituelle. Pardon pour nos disputes. Pardon quand nous nous attachons trop fort à un serviteur de Dieu. Pardon quand nous construisons à côté du fondement. Pardon quand nous oublions l'importance de l'Église de Christ. Je prie pour les responsables d'Église qui sont ici aujourd'hui, que tu les aides à travailler avec soin pour ton épouse, l'Église. Je prie pour chaque membre d'Église, pour que chacun puisse parler en bien de l'Église et du projet de Dieu pour l'Église. Je prie pour les étudiants qui sont là, que cette année, ils puissent grandir dans leur amour pour le projet de Jésus-Christ et son Église. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.